Jack London, Le Vagabond des Étoiles, chapitre 18. Maintenant, au Mont-Roi. Le grand prêtre Yun San avait commis une faute impardonnable en laissant vivre Chung Mong-yu. Une faute, en réalité, il n'avait pas osé agir autrement. Disgracié et banni de la cour, Chung Mong-yu, tout en paraissant cuver son dépit sur la côte nord-est, avait sourdement intrigué et maintenu sa popularité intacte près du clergé provincial. Des prêtres bouddhistes lui servaient en majeure partie d'émissaires. Il n'arrêtait pas de circuler par tout le pays, en gagnant à sa cause tous les fonctionnaires impériaux et avait obtenu d'eux, en sa faveur, un serment d'obéissance. Yun San n'ignorait pas ce qui se tramait dans l'ombre, mais là non plus il n'osait agir. L'Asiatique excelle avec sa froide patience à ses conspirations vastes et compliquées. Au sein même du palais impérial, le parti de Chung Mong-yu croissait au-delà de ce que Yun San pouvait sembler supposer. Les gardes du palais, les fameux chasseurs de tigres que commandait Kim, furent eux-mêmes achetés. Et tandis que Yun San saluait de la tête les gens prosternés à ses pieds, tandis que je me consacrais paisiblement à l'hélium et au sport, tandis qu'Hendrik Hamel perfectionnait ses plans de fuite et de mise à sac du trésor impérial, tandis que Johannes Martins mijotait ses projets mirifiques parmi les tombes de la montagne de Tabong, le volcan que chauffait sous nos pieds Chung Mong-yu ne nous donnait presque aucun signe visible de sa prochaine éruption. Seigneur, Seigneur, lorsque la tempête se déchaîna, ce fut quelque chose de vraiment terrible. Elle partit à la fois de tous côtés, sauf qui peut, et tout le monde ne fut pas sauvé. Ce fut Johannes Martins qui précipita en fait la catastrophe et fit éclater la conspiration avant l'heure fixée par Chung Mong-yu. Mais il lui fournit d'agir une si belle occasion que celui-ci eût été bien sot de n'en pas profiter. Jugez-en plutôt. Alors que les Coréens ont pour les morts ancestraux un culte fanatique, ce vieux pirate hollandais, assoiffé de rapine, en compagnie de ses quatre matelots dans sa province perdue de Kyung-yu, ne commit-il pas la folie de profaner les tombes des anciens rois de Silla, qui y dormaient depuis des siècles dans leur cercueil d'or? L'opération s'effectua pendant la nuit, et avant le lever du jour, les cinq conjurés se hâtèrent de se mettre en route afin de gagner la côte. Mais le jour qui suivit s'abattit sur toute la contrée un brouillard intense, où ils s'égarèrent. Ils ne purent rejoindre la jonque qui les attendait et que Martins avait frété en grand secret. Un fonctionnaire local, nommé Yi Yun-sin, tout dévoué à Chung Mong-yu, se lança à leur poursuite avec des soldats. Ils furent encerclés et faits prisonniers. Seul Herman Tromp parvint à s'échapper dans le brouillard et put, par la suite, me conter le détail de ce qui était arrivé. Toute cette nuit-là, quoique la nouvelle du sacrilège se fût déjà répandue à travers les provinces du Nord, qui se soulevèrent incontinent contre les fonctionnaires impériaux, Keijo et la cour dormirent paisiblement, dans une ignorance complète des événements. Sur l'ordre de Chung Mong-yu, les fanaux de paix continuèrent à briller sur toute la Corée. Il en fut de même au cours des nuits suivantes, tandis que les messagers de Chung Mong-yu crevaient leurs chevaux pour aller porter partout ses ordres souverains. Comme je sortais à cheval de Keijo à l'heure du crépuscule pour aller faire un tour dans la campagne, je vis sous la grande porte de la capitale s'abattre la monture fourbue d'un de ses messagers et son cavalier se relevant continua à pied son chemin. Je poursuivis ma route sans m'inquiéter de savoir quel était cet homme et ne me doutant guère qu'il apportait avec lui mon destin. Le message dont il était chargé fit éclater la révolution au palais impérial. Lorsque j'y rentrai à minuit, tout était terminé. Dès 9 heures du soir, les conjurés s'étaient emparés dans son appartement même de la personne de l'empereur. On le contraignit à mander devant lui tous ses ministres, et à mesure qu'ils se présentaient, ils étaient abattus. Les chasseurs de tigres s'étaient soulevés eux aussi. Yun Sang et Hendrik Hamel furent faits prisonniers et férocement battus par eux à coups de plats de sabre. Les 8 autres matelots purent s'échapper du palais, emmenant avec eux l'hélium. Ils y réussirent grâce à Kim, qui, l'épée à la main, leur ouvrit un passage à travers ses propres soldats révoltés. Kim tomba dans la bataille et fut foulé aux pieds. Mais malheureusement pour lui, il ne mourut pas de ses blessures. Comme une risée de vent qui s'élève durant une nuit d'été, la révolution souffla et passa tout naturellement sur le palais. Dès le lendemain, Chung Mong-yu était remonté en selle et redevenu tout puissant. L'empereur souscrivit à toutes ses volontés. Sauf l'émotion qui fut générale à la nouvelle de la profanation des anciens tombeaux royaux, la Corée demeura paisible. Chongmongyu fut partout acclamé, les têtes des anciens fonctionnaires tombaient dans le pays entier, et ils étaient remplacés par des créatures du nouveau potentat. Il n'y eut nulle part aucun soulèvement. Voici maintenant quel fut notre sort. Johannes Martins et les trois matelots capturés avec lui furent ramenés à Keijo, couverts des crachats de la canaille de tous les villages et de toutes les villes où ils passèrent. Puis ils furent enterrés jusqu'au cou dans le sol de la grande place, qui s'étendait devant le palais impérial. On leur donna à boire afin de prolonger leur existence, pour qu'ils puissent plus longtemps soupirer ardemment vers la nourriture, toute fumante et savoureuse, que l'on déposait devant eux et renouvelait une fois par heure pour les tenter. On m'a assuré que le vieux Johannes Martins survécut le dernier et ne rendit l'âme qu'au bout de 15 jours. Kim eut les os broyés, un par un, et les jointures démises, l'une après l'autre, par de savants torsionnaires, et fut lui aussi très long à mourir. Andrew Camel, que Chongmongyu pensa être le cerveau qui avait agi pour moi, fut battu à mort aux clameurs joyeuses de la populace de Keijo. Le grand prêtre Yun San mourut courageusement et sa fin fut digne de lui. Il était occupé à jouer aux échecs avec son geôlier quand le messager de l'empereur, ou plutôt de Chongmongyu, se présenta devant lui porteur d'une coupe de poison. Yun San le pria d'attendre un instant. « Vous avez, dit-il, des façons peu courtoises, et l'on ne dérange pas un homme au beau milieu d'une partie d'échecs. Je boirai dès que j'aurai terminé. » Le messager attendit, tandis que Yun San achevait et gagnait sa partie, puis vidait la coupe. Il faut être un asiatique pour savoir comment on dose son fiel et comment on assouvit sa vengeance avec persistance et régularité durant toute une vie. C'est ce que fit Chongmongyu avec Lady Om et avec moi. Il ne nous supprima point. Il ne nous fit même pas emprisonner. Mais tandis que Lady Om était déchue de son rang et dépossédée de tous ses biens, un décret impérial fut promulgué et affiché dans le moindre village de l'Empire coréen pour apprendre aux populations que j'appartenais à la maison de Koryu et qu'en conséquence, je ne devais pas être tué par personne. Les 8 matelots survivants, mes esclaves, ne devaient pas être tués eux non plus, comme moi. Et comme Lady Om, ils demeureraient toute leur vie des mendiants sur les grandes routes. Ainsi fut-il, 40 ans durant, car la haine de Chongmongyu était immortelle et la fatalité voulut qu'il vécût de longs et heureux jours, tandis que nous traînions tous notre existence maudite. J'ai dit que Lady Om était une femme admirable. Je ne dois pas me lasser de le répéter, et les mots me font défaut pour pouvoir exprimer toute la vénération que je lui porte. J'ai ouï dire quelque part qu'une grande dame avait déclaré un jour à son amant une simple tente et une croûte de pain avec vous. Voilà aussi ce que me dit Lady Om, et elle ne le dit point seulement, elle le fit, avec cette aggravation que bien souvent les croûtes de pain étaient rares, et que pour tente nous n'avions rien que le ciel. Tous les efforts que je tentais pour échapper à la mendicité furent déjoués par la haine tenace de Chongmongyu. À Songdo, je me fis porteur de combustible et nous partageâmes à nous deux une hutte qui, contre les morsures de l'hiver, était à peine plus confortable que la pleine route. Chongmongyu nous y dénicha. Je fus battu, mis au carcan et rejeté de nouveau sur la route. Ce fut un hiver horrible, effroyablement froid, au cours duquel le pauvre Van der Voet, et quoi encore, gela à mort dans les rues de Keijo. À Pyongyang, je me transformai en porteur d'eau. Car sachez que cette antique cité dont les murs sont bien contemporains du roi David était considérée par ses habitants comme flottant à l'instar d'un vaisseau sur une couche d'eau souterraine. Creuser un puits dans son enceinte eût risqué de la submerger. C'est pourquoi du matin au soir, des milliers de coulis avec des seaux suspendus aux deux extrémités d'un joug reposant sur leur nuque étaient occupés à faire la navette de la ville au fleuve qui en était voisin et vice-versa. Je me fis embaucher parmi eux et exercer ce métier jusqu'au jour où Chongmongyu me repéra. Je fus battu de rechef, chassé de Pyongyang et remis sur la route. Et toujours il en était ainsi. Dans la ville lointaine de Viuzhou, je devins boucher de chiens. Je tuai les bêtes publiquement, devant mon étal ouvert à tout vent. Puis je découpai et vendais la viande, tandis qu'étendant les pots dans la boue en pleine rue, le côté saignant en dessus, je laissais aux pieds sales des acheteurs et des passants le soin de les tanner. Chongmongyu me découvrit, et je dus fuir encore. Je fus aide-teinturier à Pyunhan, chercheur d'or dans les placères de Kyangwoon, fabricant de cordes que je tordais à Shingsan, je tressais des chapeaux de paille à Padok, fauchais l'herbe à Wanghai, À Massampo, je me louai, ou plutôt me vendis, à un planteur de riz, à un salaire inférieur à celui du dernier des coolies, et me courbai l'échine dans les rizières inondées. Il n'y eut jamais une heure, ni un endroit, où le long bras de Chong Mong Yu ne m'atteignit pas, ne me fit battre, et ne refit de moi un mendiant. Durant deux saisons entières, Lady Om et moi nous cherchâmes et finirent par trouver une unique, rare et précieuse racine de ginseng, si renommée des médecins que du prix de sa vente, nous eussions pu vivre à l'aise l'un et l'autre durant une année entière. Mais juste au moment où j'étais en train de négocier, on m'arrêta. La racine fut confisquée et je fus encore plus battu, mis au carcan plus longtemps que de coutume. Toujours les membres errants de la grande corporation des colporteurs renseignaient Chong Mong Yu à Keijo sur mes faits et mes gestes, en avertissaient ses gouverneurs et ses agents. Quoi que nous fissions, il nous était impossible de fuir, soit en franchissant les frontières nord, soit en nous embarquant sur mer, sur quelques sampans. Partout, sitôt arrivés, nous étions brûlés. Une seule fois, avant celle qui fut la dernière, j'ai rencontré Chong Mong Yu. Ce fut par une nuit d'hiver que secouait une violente tempête sur les montagnes de Kunwu. Quelques menues monnaies économisées m'avaient permis de louer pour Lady Om et moi un abri pour la nuit, dans le coin le plus sale et le plus éloigné du feu de l'unique grande pièce d'une auberge. Nous allions commencer notre maigre repas composé de fèves et d'eau sauvage qui nageait dans un affreux ragoût en compagnie d'un minuscule morceau de bœuf tellement coriace que sans nul doute l'animal dont il provenait était mort de vieillesse. Nous entendîmes à ce moment tinter au dehors les clochettes de bronze et résonner le piétinement des sabots d'un attelage de poney. La porte s'ouvrit et Chong Mong Yu, personnification vivante du bien-être, de la prospérité et de la puissance, entra, en secouant la neige de ses inestimables fourrures de Mongolie. Chacun lui fit place, à lui et aux 12 hommes qui formaient sa suite. Soudain, ses yeux s'arrêtèrent, par le plus grand des hasards, car on était nombreux dans l'auberge, sur Lady Om et sur moi. « Débarrassez-moi, ordonna-t-il, de cette vermine qui est là, dans ce coin. » Alors ses écuyers nous flagellèrent de leurs fouets et nous rejetèrent dans la tempête. « Seigneur, Seigneur, il n'y a pas au Corée une seule de tes routes, pas un seul de tes sentiers de montagne, pas une de tes villes fortifiées, pas une de tes bourgades qui ne m'est connue. 40 ans durant, j'ai erré sur ton sol et j'ai eu faim, et Lady Om a partagé avec moi cette misère, poussé à bout, que n'avons-nous pas mangé? Des détritus invendables de viande de chien que nous lançaient les bouchers railleurs, du minari, sorte de cresson cueilli par nous dans la vase de marais stagnant, du kimchi gâté qui aurait fait vomir des estomacs de paysans et qui empoisonnait à 1 mille de distance. Oui, j'ai disputé leurs os aux chiens, ramassé des grains de riz tombés sur les routes, volé aux chevaux par des nuits glacées leur soupe fumante de fèves. Ne vous étonnez pas pourtant que je ne sois pas mort. Deux choses me soutenaient. La présence de Lady Om à mon côté, puis la foi certaine que j'avais qu'un jour viendrait où l'étreinte de mes pouces et de mes doigts se resserrerait sur la gorge de Chong Mong Yu. Je l'avais cherché tout d'abord à Keijo, mais les portes même de la ville m'étaient interdites. Je savais pourtant qu'avec de la patience, nous finirions par nous retrouver. 40 ans durant, chaque bribe du sol de la Corée raconta à nos sandales ses vieilles histoires. Si vaste que fût l'empire, il ne s'y trouvait plus âme qui vive pour ignorer qui nous étions et quel était notre châtiment. Plus d'une fois les coolies et colporteurs, qui hurlaient leurs injures à Lady Om, connurent la force de mon poing qui s'abattait sur leurs chignons, la colère de ma main qui souffletait leurs faces. Parfois, dans les montagnes, en des villages perdus, nous rencontrions des vieilles femmes qui, lorsqu'elles voyaient passer à mon côté Lady Om, la grande princesse déchue, poussaient un soupir en hochant la tête, tandis que leurs yeux s'obscurcissaient de larmes. D'autres, des jeunes femmes, s'apitoyaient au passage de mes larges épaules, de mes longs cheveux fauves, de l'homme qui jadis avait été le prince de Koryu et le gouverneur de 7 provinces. Des cohues de gamins se collaient à nos talons, ils n'avaient eu aucune miséricorde, et nous lapidaient avec des cris perçants, des mots orduriers. Au-delà de Yalu, large de 40 miles, s'étendait une immense désolation qui, de la mer du Japon à la mer Jaune, constituait la frontière septentrionale coréenne. Ce n'était pas, à proprement parler, des terres infécondes, mais des terres que l'on avait rendues telles en application de la politique d'isolement de la Corée. Sur cette bande, large elle-même de 40 miles, villes, villages, fermes, tout avait été détruit. C'était le No Man's Land, infesté de bêtes fauves, et que sillonnaient seuls des compagnies de chasseurs de tigres à cheval, ayant pour mission de tuer tout être humain qui s'y rencontrait. Il n'y avait donc aucun espoir de s'échapper dans cette direction. Après avoir longtemps erré comme moi un peu partout, mes 8 camarades matelots se rabattirent de préférence sur la côte sud, où le climat était le plus doux. C'était en outre la contrée la plus proche du Japon. À travers les détroits qui le séparaient de la Corée, on apercevait au loin les côtes s'estomper. Là était le seul espoir de salut. Peut-être quelques navires d'Europe apparaîtraient-ils un jour. Je vois encore ces 8 vieillards, debout ou assis, sur les falaises de Funsan, et soupirant de toute leur âme vers cette mer sur laquelle il leur était interdit de naviguer désormais. On apercevait bien parfois des jonques japonaises, mais jamais une voile, aux formes familières à la vieille Europe, ne surgit sur les flots. Les années s'écoulaient, Lady Home et moi nous avions passé, comme les 8 matelots, de l'âge moyen à l'âge mûr, puis à la vieillesse. Nous aussi nous revenions de préférence à Funsan, où nous nous retrouvions tous ensemble. Puis, à mesure que s'égrenaient les ans, l'un et l'autre manquaient successivement au rendez-vous habituel. Hans Hamden fut le premier qui nous quitta. Jacob Brinker, son compagnon de route habituel, nous en apporta la nouvelle. Brinker fut le dernier des 8. Il avait presque 90 ans quand il mourut et dépassait Trompe de 2 ans environ. Je me souviens comme si c'était hier de cette paire d'amis qui, au terme de leur vie, faibles et usés, enguenis de mendiants, se chauffaient côte à côte au soleil, leurs sébiles à côté d'eux, sur les falaises de Funsan. Ils caquetaient de leurs voix aigres, semblables à des voix d'enfants, et se faisaient mutuellement 1000 contes du passé. Trump rabâchait sans cesse, entre ses gencives, comment Johannes Martins et ses 4 matelots dont il était, violèrent les sépultures des rois sur la montagne de Tabong. Comment ils trouvèrent chacun d'eux embaumé dans son cercueil d'or, entre 2 vierges, à leur droite et à leur gauche, embaumés comme eux. Comment enfin ces superbes revenants, reparus au jour, s'émiettaient en poussière. Tandis que Johannes Martins et ses 4 matelots juraient et suaient à grosses gouttes en brisant leur cercueil. Aussi vrai que c'était là un coup magnifique, Johannes Martins se serait enfui avec son butin sur la mer Jaune, sans ce brouillard, où le lendemain il se perdit. Maudit brouillard. On en fit une chanson que jusqu'à mon dernier jour, j'entendis en serrant les poings, chanter en Corée. Yang Kukeni, Shangin Hanka, Wampong Dora de Umda, disait-elle, ce qui peut se traduire ainsi. Sur la cime de Wan se prépare pour les hommes de l'Ouest un brouillard épais. Oui, 40 ans durant, je fus un mendiant sur la terre coréenne. De tous mes compagnons bannis, comme moi, sur les grandes routes, je survécus le dernier. Lady Home avait, elle aussi, la vie dure, et nous vieillîmes ensemble. Elle était devenue à la fin une vieille femme édentée, et toute rabougrie. Mais sa belle âme ne fléchit point, et elle posséda mon cœur jusqu'à l'heure de ma mort. Moi, pour un homme de 70 ans, j'étais demeuré vigoureux encore. Si mon visage s'était ridé, si mes cheveux d'or étaient devenus blancs, si mes larges épaules s'étaient voûtées, quelque chose survivait toujours dans mes muscles, de ma force ancienne, grâce à quoi je pus accomplir ce que je vais maintenant raconter. Par une belle matinée de printemps, j'étais assis avec Lady Home sur les falaises de Funsan et nous nous chauffions au soleil à quelques pas de la grande route. Nous étions en guenilles, misérablement, dans la poussière. Et pourtant, tous deux, nous rions de bon cœur à une plaisanterie que venait de marmotter Lady Home. Une ombre soudain s'abattit sur nous. C'était la grande litière de Chongmongyu, portée par 7 coulis, précédée et suivie d'une escorte de cavaliers, et encadrée de chaque côté d'une nuée de serviteurs, qui se trémoussaient à qui mieux mieux. 2 empereurs, une guerre civile et une 12aine de révolutions de palais avaient passé sans que la puissance de Chongmongyu en eût été ébranlée. Il pouvait avoir près de 80 ans quand, ce matin de printemps, sur la falaise, il fit un signe de sa main aux 3/4 paralysés afin que sa litière s'arrêtât et qu'il pût contempler encore ceux que, depuis si longtemps, il punissait. Lady Home me murmura à l'oreille « C'est maintenant, ô mon roi ». Puis rapidement, elle se détourna pour implorer une aumône de Chongmongyu, qu'elle feignit de ne pas reconnaître. Je n'ignorais pas ce qui se passait dans sa pensée. Cette pensée ne nous avait-elle pas été commune pendant 40 ans? Et l'heure de son aboutissement était enfin arrivée. Alors, moi aussi, j'affectai de ne point reconnaître mon ennemi. Simulant une sénilité stupide, je rampai dans la poussière, comme Lady Home, vers la litière, en pleurnichant pour la grâce d'une charité. Les serviteurs de Chung Mong-yu s'apprêtaient à me repousser. La voix chevrotante du maître les retint. Je le vis qui se soulevait sur un de ses coudes en tremblotant et qui, de son autre main, écartait tout grand les rideaux de soie. Sa figure flétrie s'illumina d'un éclair joyeux tandis qu'il nous couvait du regard. L'édéum murmura de nouveau à mon oreille son chant lamentable de mendiante. « Maintenant, maintenant, ô mon roi, tout son fidèle et impérissable amour, toute sa foi dans ma suprême entreprise, était enclos dans son chant et dans sa voix. Et la colère rouge monta en moi. Vainement j'essayai de lutter et de me débattre contre elle, et dans ce combat je fus saisi d'un tremblement de tout mon être. Chung Mong-yu vit ce tremblement et pensa que la vieillesse seule en était la cause. Je tendis vers lui ma sébile de cuivre et pleurnichai plus lamentablement encore. Je voilai sous les larmes le feu ardent de mes prunelles bleues et je calculai la distance et ma force avant de bondir. Ce fut comme un jet de flammes rouges. Il y eut un grand fracas des rideaux et de leurs tringles, puis des cris perçants et des braillements sans fin des serviteurs affolés, tandis que mes mains se refermaient sur la gorge de Chung Mong-yu. La litière bascula et je sus à peine où je me trouvais. Mes doigts, cependant, ne se relâchèrent point. Dans le pêle-mêle des coussins et des couvertures, je ne fus guère atteint, tout d'abord que par des coups que me portaient les serviteurs, mais bientôt les cavaliers arrivèrent à la rescousse, et leurs manches de fouet massifs s'abattirent sur ma tête, tandis qu'une multitude de mains m'agrippaient et me déchiraient. Un vertige s'empara de moi, je gardai cependant assez de conscience pour sentir que mes vieux doigts décharnés étaient enfoncés solidement dans cette vieille et maigre gorge que je cherchais depuis longtemps. Les coups continuaient à pleuvoir sur ma tête, où mille pensées tourbillonnaient, et je me comparais intérieurement à un bulldogue dont rien ne peut faire se desserrer les mâchoires. Chung Mong-yu ne pouvait plus m'échapper, et je sus bien qu'il était mort avant que la nuit descendît sur moi comme une anesthésie sur les falaises de Funsan, en face de la mer jaune.